Radio Okapi. Le journal vous est présenté par Belinda Bossouma.
Goma, interdiction formelle aux cambistes et aux revendeurs des cartes prépayées d'effectuer leurs opérations sur la voie publique au-delà de 17 heures locales. Le maire de Goma rappelle également aux motards qu'aucune moto ne doit circuler au-delà de 18 heures. Ces mesures suscitent des réactions de partout dans la ville. Province du Maniema, après plusieurs mois, les entités territoriales décentralisées reçoivent leur rétrocession d'un mois. Le gouverneur de province met en garde ces entités sur la gestion de ces fonds. Vous entendrez à ce sujet le chef de secteur des BIA dans le territoire de Pangui. Et puis, l'invité de ce matin, Célestin Vunabandi, sénateur, y conduit une délégation du caucus des sénateurs originaires du Nord Kivu, actuellement en vacances parlementaires dans le Grand Nord. Il nous parle des desiderata collectés auprès de la population locale. À tous et à toutes, bonjour. Commençons par le Nord Kivu. À Goma, il est interdit formellement aux cambistes, opérateurs du secteur de transfert monétaire et aux revendeurs des cartes prépayées d'effectuer leurs opérations sur la voie publique au-delà de 17 heures locales. Le maire de Goma, qui rappelle cette disposition, parle de l'inobservance des consignes par cette catégorie de personnes, pourtant la cible des braquages. De même, il rappelle aux motards qu'aucune moto n'est autorisée à circuler au-delà de 18 heures. Les réactions fusent de partout, demandant à l'autorité de faire une autopsie sécuritaire de toutes les mesures déjà prises et de renforcer les mesures sécuritaires dans la ville. Denise Loukesso nous fait le point.
Mercredi, un autre cas de braquage dans une boutique de transfert a eu lieu dans les quartiers Virunga à la mi-journée, alors que mardi, un jeune revendeur de crédit a été tué par balle par des hommes armés au quartier Kieshiro. En limitant les opérations d'échange à 17 heures, le maire de la ville entend prévenir les cas de braquage ciblant surtout les cambistes et les opérateurs de transfert de monnaie aux aires vespérales où ils font également l'objet d'extorsions. Le commissaire supérieur principal parle de l'inobservance des consignes, ce qui explique ses rappels à l'ordre d'une mesure datant d'il y a une année. Selon un acteur politique de Goma, cette énième disposition ne fait que s'attaquer aux conséquences de l'insécurité sans toucher à sa cause.
Il est vraiment aberrant de constater l'insécurité continue à monter des flèches dans la ville de Goma. L'insécurité n'a plus d'air et n'épargne aucun endroit dans la ville de Goma. Cette unique mesure du maire de la ville serait s'attaquer aux conséquences au lieu de chercher des solutions durables.
Plusieurs acteurs saluent cette mesure. Ils recommandent cependant la tenue d'un dialogue sécuritaire avec toutes les couches de la population. C'est pour identifier les auteurs, les causes et les conséquences en vue de dégager des solutions idoines. Goma, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Deux députés élus du territoire de Masisi plaident pour l'intervention urgente du gouvernement pour une solution à la crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans leur entité. Didier Kamundu et Alexis Baunga, respectivement députés nationaux et députés provinciaux, ont eu un entretien à ce sujet mercredi avec le gouverneur militaire par intérim, Peter Chirimwami. Pour les deux élus du peuple, alors que les déplacés venus de Masisi exigent le retour dans leur village, une reprise des combats dans le territoire devient un autre sujet d'inquiétude. Le député Alexis Baunga, dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangi.
Nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale pour lui présenter la situation socio-humanitaire, sécuritaire et économique du territoire de Masisi. Il s'agit principalement des conditions misérables qu'endurent nos populations dans les camps tout autour de la ville de Goma. Ces populations n'ont pas assez d'assistance. Il y a donc plus besoin d'un appui du gouvernement pour qu'elles bénéficient de cette assistance, mais aussi pour qu'elles rentrent chez elles. La population de la paix pour qu'elles rentrent chez elles. Nous sommes venus aussi présenter la question des tracasseries qui s'observent sur nos populations tout autour de l'agglomération de Sake, lorsque cette population est en partance pour Kichanga, Masisi et vice-versa. Plusieurs prélèvements se font sur la population. Et on ne sait pas si ce prélèvement-là vaut où et qui le fait. Pourquoi? D'ailleurs, à cause de ce prélèvement-là, il y a déjà eu mort d'hommes. Certaines personnes se font fusiller parce qu'elles n'ont pas eu à payer ce groupe de gens qui gèrent cette entité-là.
À Goma, trois jeunes gens sont décédés hier à la mi-journée, tués par un engin explosif à la limite ouest du quartier Mugunga. Ce sont des déplacés du site de Lushagala qui recueillaient du bois de chauffe près du cimetière Chemin du Ciel dans le parc national des Virunga, non loin du camp Luashi, renseigne des sources sur place. Le porte-parole de la 34e région militaire appelle la population à plus de prudence dans cette zone proche des lignes de front, suivant le lieutenant-colonel Guillaume Njikekaiko.
Les forces armées de la République démocratique du Congo informent la population de Goma et ses environs qu'un incident malheureux est survenu ce jeudi 12 septembre 2024 à Mugunga, où une bombe de mortier 120 mm non explosée a tué trois enfants qui étaient à la recherche de bois de chauffe et qui ont tenté de la manipuler, tout en compatissant au malheur qui vient de frapper les familles des victimes. Et afin d'éviter pareils incidents dans l'avenir, les forces armées demandent à la population d'éviter la manipulation de tout objet métallique d'origine inconnue et de signaler sa présence aux forces de défense et de sécurité.
En plus bref, notez que la ville de Goma retrouve le calme après la violente manifestation de certains déplacés de guerre hier au quartier Mugunga à l'ouest de la ville. Les manifestants réclamaient l'assistance en vivres qu'ils n'ont pas reçue depuis plusieurs mois. Dans l'actualité aussi, sensibiliser la police nationale congolaise sur la stratégie de la violence basée sur le genre, c'est l'un des points abordés à la conférence organisée en marge de la Journée internationale de la coopération policière. C'était hier, 12 septembre, à Kinshasa. Au cours de ce rendez-vous, la MONUSCO a expliqué aux commissaires et généraux de la police nationale congolaise le rôle de la mission onusienne. Le compte-rendu de Étienne Lissumbo.
La salle était remplie des officiers de la police nationale congolaise. Ces derniers suivent religieusement les explications sur le rôle que joue la MONUSCO dans cette collaboration qui la lie à la police nationale congolaise. Khalifa Abdou Sila est le représentant du chef de la composante police de la MONUSCO.
Et nous les accompagnons aussi sur le domaine appui-conseil par rapport à ces différentes structures, que ce soit au niveau du commissariat général, au niveau du commissariat provincial et aussi au niveau de l'inspection générale de la police nationale en termes de suivi.
Pelagicola, commissaire de UNPOL, explique comment la sensibilisation des policiers congolais en matière de violence basée sur le genre.
Nous faisons des sensibilisations, des formations, des échanges en atelier sont faits pour, dans le sens de permettre une bonne compréhension du concept du genre et aussi de mieux lutter et efficacement.
Arsène Chidimou Mukendi, représentant de l'Institut d'Aller, souligne la mission que son institution joue au sein de la police nationale congolaise.
La formation destinée aux acteurs du secteur de sécurité sur la prévention du recrutement et utilisation d'enfants dans les conflits armés.
La MONUSCO rappelle qu'elle n'a pas la mission de faire la PNC une police politique, car cela ne relève pas de son mandat.
Direction la province du Maniema, je vous l'ai dit dans les titres. Après plusieurs mois, les entités territoriales décentralisées reçoivent leur rétrocession d'un mois. Ceci est intervenu jeudi à l'hôtel du gouvernement. Chaque entité a reçu la somme telle qu'envoyée par Kinshasa. Le gouverneur de province Moussa Kabouankoubi Moïse met en garde ces derniers sur la gestion de ces fonds. Maître Hilaire Ouessa, chef de secteur des BIA dans le territoire de Pangui, remercie les autorités au nom de ses pairs. Propos accueilli par Florence Kizalunga.
Nous sommes payés aujourd'hui notre rétrocession du mois de juin pour cette année 2024. Et c'est comme la première fois qu'un gouverneur de cette province réunit les chefs d'entité et leur parler de la rétrocession et du montant qui est envoyé à partir de Kinshasa. Et il nous a dit chaque entité ce que nous devons recevoir avant de passer à la comptabilité. Ce qui est une exception pour nous qui sommes déjà une année dans le travail, de trouver un gouverneur qui a les soucis de nous parler en toute transparence, les montants réels et la percevoir et passer à la comptabilité, c'est le même montant que nous avons reçu parce que lui-même, il nous a rassuré qu'il n'y a pas des opérations retour comme ça s'est versé l'autre fois. Aujourd'hui, chaque entité vient de recevoir les montants exacts envoyés par Kinshasa. Et nous avons dit au gouverneur, vis-à-vis de cette transparence, nous aussi, on doit répercuter la transparence dans notre gestion au niveau de nos entités. Mais c'est fait malheureusement maintenant que le mois que nous venons de recevoir, c'est le mois de juin. On n'a pas reçu le mois de mai, le mois d'avril et consorts. Mais nous pensons que notre cri d'alarme, fasse maintenant diligence au niveau de Kinshasa, que l'argent arrive régulièrement pour que les bases soient véritablement développées.
Restons au Maniema. Les personnes vivant avec handicap dénoncent leur absence au sein de l'équipe gouvernementale et des cabinets ministériels. Mercredi, la Ligue des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables du Maniema ont organisé une marche à Kindu, marche qui a chuté au gouvernorat de province. Sur place, un mémorandum a été lu et déposé auprès de l'autorité provinciale pour réclamer leur représentativité. On écoute à ce sujet Maître Kanamouli Kita Stanislas, leur président. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes venus déposer un mémorandum auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, dans lequel nous réclamons notre représentativité au sein des cabinets ministériels, du cabinet du gouverneur et dans les autres régies financières de la province. Pourquoi cette réclamation? Parce que, spécialement en ces articles 3 et 4, le décret fixant les modalités de représentation des personnes avec handicap dans les institutions en République démocratique du Congo fixe le taux de cette représentativité à 5% dans les institutions publiques, 3% dans les institutions privées. Mais ici chez nous, nous avons même rappelé à son Excellence, depuis qu'il a commencé à travailler dans son équipe gouvernementale, aucune personne avec handicap n'a été représentée. C'est pour cela que nous venons lui demander, lors des prochaines nominations, qu'il puisse au moins penser à la représentation des personnes avec handicap. Et nous avons mis même en annexe les potentiels nominés afin que le gouverneur puisse choisir ceux qui vont travailler dans les différents services.
Province du Tanganyika, les conseillers communaux de la ville de Kalemie réagissent à la décision du vice-premier ministre en charge de l'intérieur concernant leur prise en charge. Ils disent souhaiter que leurs émoluments viennent plutôt du gouvernement central et non provincial comme décidé par le VPM de l'intérieur. Ils disent craindre que certains conseillers communaux soient payés suivant les caprices de certains gouverneurs des provinces. Paulin Munanga nous en dit plus.
Dans le message officiel du 7 septembre dernier, le vice-ministre des Affaires coutumières a, au nom du vice-premier ministre de l'Intérieur, enjoint tout à fait cessant tous les gouverneurs des provinces de faciliter le cadre de travail des conseillers communaux, d'assurer leur prise en charge, donc de payer leurs émoluments dans la quotité des rétrocessions nationales et des taxes d'intérêt commun dues aux entités territoriales décentralisées. En réaction, les conseillers communaux de Kalemie saluent ces mesures prises par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Cependant, ils ne sont pas d'accord que leurs émoluments soient payés par le gouvernement provincial du Tanganyika, mais par le gouvernement central. Ils l'ont fait savoir à la radio Okapi. D'après eux, la rétrocession dont devraient dépendre leurs émoluments est largement irrégulière. Les conseillers communaux précisent que la dernière rétrocession dans la province du Tanganyika date d'au moins 7 mois. En outre, les taxes d'intérêt commun qui devraient être la source de leurs émoluments ne sont pas bien identifiées. Kalemi Pole Munanga, Radio Okapi.
Direction la ville de Bunia en Ituri qui se dote de 5 nouveaux panneaux lumineux de signalisation. C'est pour renforcer la régulation du trafic routier qui devient de plus en plus dense à cause de l'augmentation des nombres des engins roulants et l'asphaltage par le gouvernement de plusieurs tronçons routiers. L'inauguration officielle de ces dispositifs routiers a eu lieu jeudi. Certains habitants de Bunia sollicitent auprès de la Commission nationale de prévention routière, CNPR, des campagnes de sensibilisation des usagers de route et des habitants. Reportage signé Jean-Claude Loki.
Ce sont au total 5 panneaux de signalisation routière qui sont placés au rond-point Sonas, au centre-ville. Des habitants rencontrés sur place, à l'instar de Jean Mouindo, espèrent que cela pourra faire baisser les cas d'accidents parfois mortels enregistrés à cet endroit.
Je me souviens de l'accident, il y a eu un accident mortel au rond-point Sonas ici. Il y a des motos qui se sont coincées et il y a eu mort d'homme.
Il y avait beaucoup d'accidents, mais nous supposons qu'avec cette initiative, les cas d'accidents vont se limiter dans les rond-point Sonas.
D'autres personnes souhaitent que les conducteurs des engins roulants et même d'autres habitants puissent être sensibilisés au préalable, ce qui leur permettra de se familiariser avec ces équipements modernes, une première en ville de Bunia, comme l'explique Pascal Tuniaï, un habitant de la ville.
Il faut qu'on éduque les gens pour la sécurité routière, que les usagers de la route, les chauffeurs, les taximens, tous les autres puissent comprendre qu'est-ce que signifient ces signaux-là, les piétons aussi, pour que savoir quand on doit s'arrêter, quand est-ce qu'on peut aussi reprendre la circulation. faut qu'il y ait des sensibilisations dans la radio, au niveau des associations de motards, ainsi de suite.
Au regard des travaux de modernisation des artères principales de Bounia qui se poursuivent, certains observateurs souhaitent que la SNPR installe des panneaux similaires à des endroits à forte circulation. Bounia, Jean-Claude Lucky, il est Radio Capi.
Actualité internationale. Les pluies extrêmes ont gravement entravé l'acheminement de l'aide au Soudan, au Tchad et au Soudan du Sud. Les inondations rendent extrêmement difficile le transport de l'aide en raison des routes inondées et boueuses, s'est inquiété le porte-parole du PAM au Soudan. Les fortes pluies et les inondations qui se sont abattues sur le Soudan au mois d'août ont touché plus de 317 000 personnes.
L'invité.
Il s'agit du sénateur Célestin Vunabandi. Il conduit une délégation du caucus des sénateurs originaires du Nord Kivu, actuellement en vacances parlementaires dans le Grand Nord depuis mardi. À leur étape de Beni, ils disent avoir collecté des désiderata de la population et promettent d'obtenir du gouvernement une solution durable à la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans cette partie du pays. Célestin Vunabandi est avec André Kitenge.
Célestin Vunabandi, bonjour.
Bonjour.
Peut-on savoir avant toute chose les raisons qui vous amènent dans la région?
Nous sommes venus à Beni dans le cadre de nos vacances parlementaires. Et nous sommes venus en caucus. Au total, nous sommes à 4 sénateurs. Comme vous le savez, les sénateurs, lorsqu'ils sont en vacances parlementaires, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec la base, collecter des informations, rencontrer les autorités pour préparer leur rapport de vacances parlementaires. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes présents ici à Beni.
La région de Beni, Butembo et Lubero est en proie à l'insécurité avec la guerre du M23, comme vous le savez. Que pensez-vous de cette situation?
C'est une situation qui nous préoccupe. Nous pensons que s'il y a un sujet dont le gouvernement doit se saisir, apporter des réponses pratiques, pouvoir apporter des solutions pour la population, c'est cette question sécuritaire. Partout où nous sommes passés, que ce soit à Goma, les autorités rencontrées, les forces vives, n'ont cessé de revenir sur la question sécuritaire. Nous pensons que c'est l'un des sujets les plus préoccupants qui doit préoccuper à la fois nous-mêmes comme sénateurs du Nord qui vous met l'hémicycle tout entier. Donc c'est un des sujets les plus importants de notre rapport de vacances parlementaires et pour lequel nous ferons manifestement un plaidoyer.
La situation sécuritaire est préoccupante, mais de l'autre côté, il y a aussi la situation humanitaire qui se vit dans la région avec beaucoup de déplacés de guerre. Quel sera votre apport en tant que sénateur pour essayer de soulager tant soit peu tous ces déplacés de guerre?
Oui, l'insécurité a poussé des milliers, si pas des millions de populations à se déplacer. C'est une situation qui nous préoccupe aussi. Lorsque nous étions à Goma, nous sommes arrivés à Goma, nous avons rencontré l'autorité provinciale, nous avons planché sur cette question des déplacements des populations qui ont besoin d'une prise en charge réelle, non seulement des organisations humanitaires, mais aussi et surtout du gouvernement. Notre rôle sera aussi de collecter toutes les informations, d'avoir des états de besoin. Nous l'avons d'ailleurs déjà fait hier en ce qui concerne le secteur de l'enseignement primaire et secondaire. Donc des informations assez détaillées sur des états de besoin. Et l'objectif en ce qui nous concerne, comme sénateur du Nord Kivu, c'est d'obtenir du gouvernement qu'une assistance humanitaire régulière soit organisée en faveur des populations aujourd'hui déplacées. Mais bien entendu, le plus important, c'est aussi de tout faire pour que la paix revienne et que chacun puisse rentrer dans son milieu d'origine.
Vous êtes du Nord Kivu, connaissant bien la province, quelle sera pour vous la thérapie pour mettre fin à la guerre qui se vit dans l'est de la République démocratique du Congo? C'est quelle voie préconisez-vous, diplomatique, militaire ou les deux à la fois?
Les deux à la fois, mais je dirais davantage qu'il faut que l'État, en tout cas le gouvernement prenne ses responsabilités. Il faut que l'État soit présent, il faut que l'État soit prêt à protéger la population. Et donc, il faut que le gouvernement mette les moyens qu'il faut pour que sur le plan militaire, il y ait des opérations efficaces contre l'ennemi. Ça fait plusieurs années qu'on est dans une situation où finalement, notre armée, notre police ne se sont pas montrées à la hauteur de la tâche. Ce que nous attendons aujourd'hui du gouvernement, c'est que des moyens assez suffisants, conséquents, soient mis à la disposition de l'armée et de la police pour sécuriser la population. Là, c'est donc sur le plan militaire. Il faut combattre l'ennemi, ça demande des moyens, ça demande de l'organisation, ça demande de la méthode, ça demande une logistique sur le terrain. C'est tout cela que nous attendons du gouvernement. mais également il y a la solution politique et diplomatique qui ne font pas négliger. Je pense que les initiatives en cours sont de nature à nous permettre d'espérer les contacts dans le cadre des organisations sous-régionales, les discussions dans le cadre des organisations sous-régionales, que ce soit dans le cadre de la SADC, d'autres organisations, ces contacts sont les bienvenus parce qu'à la fois il faut combattre l'ennemi, mais également il faut, dans le cadre du dialogue entre États, trouver comment neutraliser l'ennemi et finalement faire la paix.
C'est quel message lancez-vous à la population comme porte-voix de ce peuple qui attend de vous beaucoup de choses au niveau du Parlement, notamment au Sénat?
Le message, d'abord un message de compassion. Nous voulons que la population sache que nous sommes avec elle, nous compatissons face au malheur qui est le sien et qui nous concerne aussi. Mais aussi le message, c'est un message d'espoir. Je voudrais que la population sache que nous sommes de cœur avec elle et que nous ne ménagerons aucun effort pour que leurs soucis qui sont les nôtres soient portés à la connaissance des autorités et qu'un plaidoyer soit fait pour que ces autorités puissent réagir, apporter des éléments de réponse de nature à sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Célestin Vounabandi, merci.
C'est à moi de vous dire merci.
Le sénateur Vounabandi répondait aux questions de André Kitenge. Par ici prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo, coordination de Richard Junior Kamonga, à la mise en onde Billy Landry Betou. Merci de nous avoir suivis.